Philippe Audouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur financier d'Eurazeo. On va parler avec vous de votre année 2015 et puis des perspectives. Vous l'avez mis dans votre communiqué, c'est une année record pour vous. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actualités, hein. Il y a eu des sessions en bourse. On est forcément ravis quand on a ce type d'exercice.
Oui, c'est un exercice qui est assez exceptionnel, mais il l'est à plusieurs titres en fait. Il l'est d'abord, effectivement, et vous avez raison de le rappeler, par le nombre d'opérations, à la fois cessions et investissements que nous avons réalisés en 2015, puisqu'on a fait pas moins de 6 cessions, en ce compris les deux introductions en bourse de Hélice et de Robcar, et puis 4 cessions, 2 partielles, 2 totales. Nous avons fait également 9 acquisitions, ce qui est pratiquement un record pour la société, et avec, je dirais, alors, je ne sais pas si c'est le sens du timing, mais en tout cas avec plutôt un bon timing, puisqu'on a été plutôt vendeur au premier semestre, et c'était un très bon moment pour vendre, les marchés étaient positifs, étaient à un niveau élevé. Et nous avons été à l'inverse, plutôt acheteurs au deuxième semestre, après que, vous savez, après l'été, les marchés se soient un peu retournés. Donc déjà, sur le plan d'Eurazeo, en tant que société d'investissement, ça a été un exercice important. Ça a également été un exercice important pour nos sociétés, puisque nos sociétés ont publié un chiffre d'affaires économique, c'est-à-dire qui est l'agrégation de notre chiffre d'affaires consolidé et notre part proportionnelle du chiffre d'affaires des sociétés mises en équivalence. Ce chiffre d'affaires économique a progressé de 12% sur l'année, et de façon assez stable d'ailleurs, puisque au quatrième trimestre, notre croissance du chiffre d'affaires était aussi de 12%, donc la même que sur la moyenne de l'année. Une très forte progression de la rentabilité de nos sociétés, puisque leur contribution au résultat d'Eurazeo net des frais de financement a progressé de 56% en 2012. Et le résultat à la fois de ces opérations sur le capital, des cessions réalisées et les performances de nos sociétés nous ont permis de réaliser le plus fort résultat de l'histoire d'Eurazeo à 1,276 milliard de résultats nets par du groupe.
Alors on sait que les années ne se ressemblent pas forcément, il n'y a pas toujours ces mêmes opportunités. Dans ce qu'on a pu lire des premiers commentaires sur vos résultats, on a l'impression que vous êtes plus prudent sur 2016. Alors est-ce que c'est lié justement à ce qui se passe sur les marchés? On a vu le début d'année avec retour d'une forte volatilité. Est-ce que c'est cette question de marché financier un peu compliquée?
Les marchés sont très difficiles à lire, je trouve, en ce moment. C'est assez difficile de dire aujourd'hui ce que pourrait être 2016 en fin d'année. Pour autant, la dynamique que nous avons montrée déjà sur le plan des investissements et des mouvements se poursuit et s'est même peut-être un tout petit peu accélérée sur 2016, puisque nous avons déjà annoncé pas moins de 5 investissements en moins de 3 mois. Donc c'est une activité qui est vraiment très très importante, et je ne vais pas vendre la pelouse ni enfin je pense que c'est pas fini. Donc de ce point de vue-là, ça 2016 sera une année très active. Après, que seront les résultats, que sera l'activité, c'est plus difficile à prévoir. Le début d'année pour l'instant se passe bien, mais c'est vrai que les marchés ont été assez chahutés. Mais vous savez que nous n'avons pas de dette, on peut rester durablement dans nos entreprises, donc on n'est jamais obligé de vendre une société pour rembourser une dette ou.
Alors on a vu hein, que les marchés effectivement étaient au plus haut pour certaines transactions, méga deals comme on dit dans le jargon des financiers. On peut se poser aussi des questions, c'est-à-dire qu'après finalement cette année ou 8 années après la crise, finalement on arrive peut-être aussi de ce côté-là sur les cibles, sur les valorisations à de vrais sujets, parce que peut-être qu'il y a effectivement les flux financiers sont importants et que du coup les cibles potentielles arrivent à des niveaux peut-être dangereux. On se repose des questions.
Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on arrive à des niveaux dangereux, mais c'est vrai qu'on est probablement à des niveaux assez élevés. Pour compenser, si je puis dire, cette situation, Eurazeo a créé en 2013 une équipe de sourcing dont on a élargi les responsabilités. C'est devenu Eurazeo Développement maintenant. Et un de ses objectifs premiers, c'est d'aller investiguer les secteurs qui nous intéressent de façon prioritaire, pour identifier des opportunités d'investissement qui ne sont pas forcément dans le marché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'Eurazeo, étant un investisseur actif dans ces sociétés, quand on investit, ce n'est pas parce qu'on pense qu'une affaire est pas chère et on espère qu'elle sera plus chère demain. On investit parce qu'on a été capable d'identifier avant d'investir ce qu'on pourrait faire dans cette entreprise pour accompagner son développement, pour la transformer et créer de la valeur pour nos actionnaires. Donc c'est ça notre principal moteur d'investissement, de sorte que pour nous, le prix, si vous voulez, d'une société, quand on regarde par rapport aux chiffres du passé, c'est évidemment un point de référence qui est très important, mais ce qui est encore plus important pour nous, c'est la valeur que la société est susceptible de créer au travers de son développement dans le futur.
Il y a un sujet pour vous là d'actualité sur ces questions de valorisation et d'achat, c'est Desigual. On en avait parlé ensemble quand vous aviez acheté cette société-là. Visiblement, il y a un vrai sujet de positionnement stratégique pour l'entreprise. Ça, j'ai envie de vous dire, vous ne pouviez pas l'imaginer avant, ou vous saviez qu'il y avait ça ?
Non, on ne pouvait pas. On a beaucoup travaillé sur Desigual hein, avant d'investir, parce qu'on a travaillé pendant pas loin d'un an. Mais effectivement, le changement de tendance qui s'est matérialisé 6-8 mois après notre investissement n'était pas lisible dans la société précédemment. Est-ce que c'est grave ? J'ai envie de vous dire oui et non. C'est grave parce qu'évidemment, on n'est pas content d'avoir une dévolution qui n'est pas strictement conforme à ce qu'on avait prévu et ce qu'on voulait faire. Mais non, parce qu'au fond, on a aujourd'hui une trentaine d'investissements en portefeuille. On en a un, effectivement, qui nécessite une attention particulière. C'est Desigual, vous l'avez justement rappelé. On a travaillé très en profondeur depuis maintenant 8 mois, 8-9 mois dans cette société pour identifier quelles pouvaient être toutes les sources de moindre performance de Desigual. On a commencé à mettre en œuvre les mesures correctives. On les a annoncées hier matin lors de notre réunion d'analystes. Ça prendra un petit peu de temps parce que c'est un métier où les changements prennent du temps. La prochaine collection qu'on va présenter, ça sera printemps-été 2017. Donc sur la partie qui concerne le produit, les changements ne pourront pas intervenir avant la présentation de la collection printemps-été 2017. Mais encore une fois, nous sommes un investisseur patient. Ce qui compte pour nous, c'est vraiment de créer de la valeur dans la durée et on reste confiant sur le potentiel de Desigual.
Ça reste rare, ce type entre guillemets, d'erreur, puisque ce n'est pas une erreur, vous l'avez dit, mais peut-être de mauvais choix de cible.
Je dirais que c'est un aléa, je pense, qui est complètement inhérent à notre métier. Ce qui est important, justement, c'est de pouvoir réagir derrière. C'est de pouvoir faire en sorte que quand on en aura d'autres, hein, des difficultés dans d'autres investissements, c'est une science complexe. Mais ce qui est important, c'est quand vous avez une difficulté comme ça, d'être prêt à se retrousser les manches pour travailler avec le management, pour identifier ce qu'il faut faire pour le corriger. Et puis, c'est d'avoir la structure, les ressources qui permettent d'accompagner l'investissement dans la durée. Alors, sur Desigual, c'est encore plus facile, puisque la société, comme vous le savez, n'a aucune dette. Elle est positive en trésorerie, et elle a même augmenté sa trésorerie de 75 millions l'année dernière, en dépit de ses difficultés, parce qu'elle a une très bonne gestion de sa trésorerie.
Le mot de la fin, dans les perspectives d'Euraseo, on a donc cette arrivée à New York, donc ça effectivement, ce mid-market américain a aussi un potentiel.
Il y a un très gros potentiel et on pense qu'effectivement, alors on ne nous attend pas sur le marché américain, soyons pas naïfs, il y a déjà beaucoup de monde, mais on pense qu'avec les caractéristiques particulières d'Euraseo, avec son actionnariat largement familial, avec le fait qu'on n'ait pas de dette, qu'on investisse nos propres ressources et pas des fonds de tiers comme un fonds classique, plus l'accompagnement qu'on peut avoir pour des sociétés américaines dans leur développement, évidemment de façon prioritaire en Europe, mais également grâce à nos bureaux à Shanghai ou à Sao Paulo, en Chine et au Brésil, peut-être une proposition de valeur attractive. Et elle vient compléter cette transformation d'Euraseo elle-même, on transforme nos sociétés, mais Euraseo elle-même s'est transformée en profondeur au cours des 5 dernières années. On profite de la dynamique. Ce n'est pas un manque, je le précise parce que la question m'a été posée, ce n'est pas parce qu'on ne sait plus quoi faire en Europe. On n'a jamais fait autant d'investissements que depuis 18 mois. Donc on a vraiment une dynamique extrêmement forte en Europe, mais on s'appuie sur cette dynamique pour aller chercher de nouveaux marchés.
Merci Philippe Audouin.
Merci.